بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيدنا محمد أشرف المرسلين، وعلى صحابته الغر الميامين، وعلى التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، aujourd'hui إن شاء الله تعالى، toujours dans les annulatifs du jeûne, on va voir deux points. Le premier c'est les vomissements. Le fait de vomir pendant Ramadan, est-ce que ça annule ou non le jeûne? Et le deuxième point, c'est la question des lochies et des menstrues chez les femmes. Donc on commence par les vomissements. Tout d'abord, les textes qui concernent cette question. Le premier texte, c'est un texte narré par le compagnon Abu Huraira. Il dit que le prophète sallam a dit « Man dara'ahu al-qay » وهو صائم فلا قضاء عليه ومن استقاء فليقضي. Celui من ذرعه القي, celui qui est vaincu entre guillemets par son vomissement, c'est-à-dire il vomit mais c'est pas choisi, c'est le il a vomi, c'est venu parce qu'il est malade ou bref, en tout cas c'est pas lui qui a provoqué le vomissement. Celui qui est touché par un vomissement. وهو صائم alors qu'il jeûne فلا قضاء عليه il ne doit pas rattraper ومن استقاء فليقضي quant à celui qui استقاء c'est-à-dire qui provoque son vomissement il va faire en sorte lui-même de vomir il cherche à vomir et il réussit à vomir donc des gens quand ils ont la nausée ou quoi et que le vomissement ne vient pas par exemple ils vont faire quelque chose pour vomir, en mettant leurs doigts dans la bouche, par exemple, ou des choses comme ça. Donc là, on parle de ça, celui qui provoque son vomissement. Ce hadith dit « Faliaqdi » qu'il rattrape son jour. Ce hadith a été rapporté par l'imam Abu Daoud, l'imam Tirmidhi, l'imam Ibn Majah, et par l'imam aussi par l'imam Ahmed. Et certains l'ont authentifié, comme l'imam Al-Albani, rahimahullah ta'ala, et certains l'ont rendu faible, comme l'imam Al-Bukhari, ou comme encore l'imam Ahmad, qui l'a rendu carrément munkar, c'est-à-dire très faible. Il a été, on a dit, authentifié par l'Albani dans les contemporains, mais aussi chez les anciens, il a été authentifié par l'imam Al-Hakim. Donc le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est un hadith à controverse, dans le sens où certains spécialistes du hadith l'ont authentifié, d'autres l'ont affaibli. Le deuxième hadith qui concerne ce sujet, c'est le hadith du compagnon Abu Darda, qui nous rapporte que le prophète sallam qa'a fa aftara. Le prophète sallam a vomi et il a, yani aftar, il a rompu le jeûne. Il a vomi et il a rompu le jeûne. Et c'est un hadith rapporté donc par Ahmed, Abu Daoud, Tirmidhi, Nasa'i, Ibn al-Jarud, Ibn Hibban, al-Daraqutni, al-Bayhaqi, al-Tabarani, Ibn Mendah, al-Hakim. Ibn al-Mundhir a authentifié ce hadith. Les auteurs des deux authentiques, al-Bukhari et Muslim, l'ont délaissé ce hadith. Donc les spécialistes du hadith nous disent qu'ils l'ont délaissé. Ça veut dire que ils en ont eu connaissance, mais qu'ils ne l'ont pas mis dans leur authentique. Donc s'ils ne l'ont pas mis dans leur authentique, c'est que pour eux, ils ne remplissaient pas le degré d'authenticité. Ils l'ont délaissé. Ensuite, on a aussi le Bayhaqi qui nous disait que c'était un hadith sur lequel il y a eu des divergences à propos de la chaîne de transmission. En tous les cas, ce hadith, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que le prophète sallam a vomi et il a rompu le jeûne. Donc, le premier hadith nous dit que celui qui vomit, il n'a pas à rompre le jeûne. Sauf celui qui provoque son vomissement, lui, il doit rattraper son jeûne parce que son jeûne est annulé à cause du fait qu'il a provoqué lui-même son vomissement. Ça, c'est le premier hadith. Le deuxième hadith nous dit, de manière générale, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vomi et il a rompu. On ne nous dit pas il a provoqué son jeûne, il a vomi. Mais les savants qui l'ont... on a dit qu'il y a des savants qui l'ont affaibli, comme le premier d'ailleurs, hadith. Sauf que pour ce deuxième hadith, les savants qui l'ont authentifié disent il faut le comprendre dans le sens où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vomi et il a rompu le jeûne, dans le sens il a vomi et donc il était malade. Et donc comme il était malade, il a rompu son jeûne parce qu'il Quand on est malade, on a la permission de jeûner, de rompre le jeûne. Troisième hadith, c'est le hadith d'Abu Saïd al-Khudri, radiyallahu anhu, dans lequel il nous dit que le professeur sallam a dit « Thalathun la yufattirn al-qay' ou al-hijamatu al-ihtilam » Trois choses ne rompent pas, n'annulent pas le jeûne. Le vomissement, l'épuration, donc la hijama, l'épuration du sang, là, ce qui ressemble à la saignée, mais c'est pas de la saignée, on appelle ça une épuration. Et l'ihtilam, c'est-à-dire le rêve érotique qui amène jusqu'à l'éjaculation. Quelqu'un qui dort, par exemple, la journée, et qui fait un rêve, et que ce rêve érotique va conduire à ce qu'il va éjaculer, eh bien, ça n'annule pas le jeûne selon ce hadith. Et ce hadith, il a été jugé faible par l'Hafez ibn Hajar al-Asqalani et également l'imam at-Tirmidhi. Il a été jugé bon par Abu Hatim et Abu Zurar et également par le Bayhaqi. Donc ici aussi, on voit que c'est un hadith. Donc, on voit aussi que c'est un hadith qui a été qui est l'objet d'une divergence entre l'authentification et la faiblesse. Et on voit que les trois hadiths ici qu'on a cités, qui concernent notre sujet, les trois sont concernés par cette divergence. Certains les authentifient, certains les affaiblissent. Donc, on n'a pas quelque chose de sûr et d'avéré. Ça, c'est la première chose qu'on puisse dire. Par contre, le hadith, si on doit leur donner de degré, le hadith qui est le plus sûr, malgré que les spécialistes du hadith ont divergé sur son authenticité et sa faiblesse, c'est le premier qu'on a cité, celui d'Abu Huraira, qui nous dit que celui qui a vomi involontairement alors qu'il jeûne, il n'a pas rattrapé. Quant à celui qui a provoqué son vomissement, qui a vomi volontairement, lui, il doit rattraper son jeûne. Alors ça, c'est les textes. Intéressons-nous à présent aux opinions. Tout d'abord, il faut savoir qu'il y a consensus entre les savants sur le fait que si les vomissements ne sont pas provoqués, le jeûne est valable. Là, tous les savants, ils sont d'accord. Quand on vomit naturellement, c'est le vomissement qui est venu naturellement parce qu'on est malade, on ne l'a pas provoqué, alors tous les savants sont d'accord pour dire que le jeûne est valable et que son jeûne n'est pas annulé. Sauf si il prend la décision d'annuler son jeûne parce qu'il est malade et qu'il a vomi et qu'il prend cette permission, il a le droit. Mais en tous les cas, s'il continue à jeûner, s'il pense avoir la force de continuer à jeûner, c'est le vomissement n'a pas annulé son jeûne et il ne doit pas rattraper son jour. Là où il y a des divergences, c'est quand les vomissements sont provoqués ou non. Alors, tout d'abord, il y a une première opinion qui dit que qu'il soit provoqué ou non, le vomissement n'annule pas le jeûne. Ça veut dire que ce sont des savants qui n'ont pas pris en compte ces trois hadiths qu'on vient de citer parce qu'ils disent ces hadiths, de toute façon, ils sont à controverse. Beaucoup les ont affaiblis. Donc, leur opinion à eux, c'est de dire non, rien ne prouve que quelqu'un qui a vomi, que ce soit volontairement ou involontairement, qu'il ait provoqué ou non son vomissement, rien ne prouve que son jeûne est annulé. C'était l'avis de certains compagnons, comme Ibn Abbas. Ibn Abbas avait l'habitude de dire que ce qui rompt le jeûne, c'est ce qui rentre, pas ce qui sort. Et le vomissement sort de l'organisme, il rentre pas dans l'organisme. On mange pas à ce moment-là, au contraire, on rend ce qu'on a mangé. Donc il n'y a pas de raison que ça annule le jeûne pour des compagnons comme Ibn Abbas, Ibn Mas'ud, et des tabi'i comme Ikrimah, des savants, des grands savants comme le Bukhari, comme on a dit Ikrimah al-Bukhari, et c'est aussi un avis qui est attribué à l'école de pensée des Hanbalites. Et alors, qu'est-ce qu'ils répondent au hadith Qa'afa Aftara, que le professeur sallam a vomi et qu'il a rompu le jeûne? Ils disent, de toute façon, ce hadith a été jugé faible par beaucoup de spécialistes du hadith, donc on n'a même pas à le prendre en compte, mais dans le pire des cas, si on considère, on suppose et on admet que ce hadith est authentique, alors on dira que le professeur sallam, on nous dit que le professeur sallam a vomi et ensuite il a rompu le jeûne, mais on ne nous dit pas pourquoi il a rompu le jeûne. Il le rompt pas forcément parce que son vomissement a annulé son jeûne. Il a rompu aussi parce qu'il a vomi, parce qu'il est malade. Et quand on est malade, on a la permission de ne pas jeûner. Donc il a rompu son jeûne parce qu'il était malade. C'est l'explication qu'il donne dans le cas où on admet l'authenticité de ce hadith, ce qui n'est pas prouvé, comme on l'a dit, à 100%. Ensuite, la deuxième opinion, c'est l'opinion qui consiste, et c'est l'opinion de la majorité des savants, c'est l'opinion qui consiste à faire une distinction entre les vomissements involontaires, naturels, et les vomissements provoqués, les vomissements volontaires. Ces savants nous disent, donc la majorité des savants, ils nous disent que quand on vomit naturellement, sans avoir provoqué le vomissement, le jeûne n'est pas annulé, on ne doit pas rattraper son jour. Par contre, quelqu'un qui a provoqué son vomissement, lui, il doit rattraper son jeûne. C'était, comme on l'a dit, l'avis de la majorité. Et c'est donc l'avis des Malikites, des Shafi'ites, l'avis le plus répandu chez les Hanbalites. Quant aux Hanafites, ils sont aussi de cet avis-là, sauf que eux, ils font d'autres distinctions. Donc, de manière globale, ils se rangent dans cet avis-là. Ils font une distinction entre le vomissement naturel, involontaire, et le vomissement volontaire et provoqué. Mais ils font aussi d'autres distinctions, comme par exemple, est-ce que la personne qui provoque son jeûne, est-ce qu'il avait conscience à ce moment-là qu'il était en train de jeûner, ou il a oublié qu'il était en période de jeûne? Ils vont faire cette distinction-là. S'il a oublié qu'il est en période de jeûne, ils vont dire, bah, c'est comme quelqu'un qui a mangé, qui a bu, en oubliant, son jeûne ne sera pas annulé. Ou alors, ils vont aussi faire des distinctions entre celui qui va, la quantité du vomissement. Est-ce que c'est vraiment juste un petit peu ou c'est beaucoup? Ils vont faire des distinctions comme celle-là. Donc, nous, on ne va pas s'intéresser à ces distinctions-là. Ce n'est pas important. Ce qui compte, c'est de comprendre que globalement, la majorité des savants prennent en compte le hadith d'Abu Huraira qui nous dit que celui qui vomit volontairement son jeûne, qui provoque son vomissement, son jeûne est annulé, il doit rattraper son jour. Quant à celui qui vomit naturellement, par maladie, il n'a pas provoqué son vomissement, s'il continue à jeûner, son jeûne n'a pas été annulé, il n'a pas de jour, il n'a pas à rattraper ce jour de jeûne. On dira que les preuves des deux côtés sont fortes, mais que les preuves qui sont utilisées, ce sont les textes qui sont des textes sur lesquels il y a beaucoup de divergences sur l'authenticité ou non de ces hadiths. Et à défaut de pouvoir se faire soi-même son idée, parce qu'il faudrait être un spécialiste du hadith pour pouvoir se faire son idée personnelle sur ces hadiths, on dira que la majorité des savants se positionnent sur la distinction entre les vomissements volontaires et provoqués et les vomissements involontaires et non provoqués. Donc, même si les preuves et les arguments de ceux qui disent qu'il n'y a rien qui conclut à l'obligation de rattraper le jour jeûné pour quelqu'un qui a provoqué son vomissement, c'est vrai que leurs preuves et leurs arguments ils sont forts. Malgré tout, il est mieux de se ranger du côté de l'avis de la majorité et de faire cette distinction entre celui qui vomit naturellement et celui qui provoque son vomissement. Ça, c'était la première question qui concerne les vomissements. À présent, les menstrues et le chi. Donc, les menstrues et le chi, comme vous savez, menstrues, ce sont la période menstruelle, la période des règles chez la femme, l'écoulement de sang chaque mois chez les femmes. Quant aux louchies, les louchies, ce sont les écoulements de sang qui viennent juste après un accouchement et qui peuvent durer jusqu'à 40 jours. Ces deux périodes sont des périodes d'impureté chez la femme, c'est-à-dire des périodes où elle ne jeûne pas et elle ne prie pas. Quant à la prière, elle ne la rattrape pas. Elle ne rattrape pas les prières qu'elle n'a pas priées pendant cette période-là. Par contre, pour le jeûne, elle doit rattraper son jeûne. Les savants sont d'accord pour dire que la femme en état de menstrue ou en état de louchi ne peut pas jeûner. Elle n'a pas le droit de jeûner. Ils vont même jusqu'à dire que c'est un péché, c'est un haram de jeûner alors qu'on est en état de menstrue ou de louchi. Et malgré tout, son jeûne est valide. Malgré tout, son jeûne n'est pas, et que malgré tout, évidemment, son jeûne n'est pas valide si elle décide malgré tout de jeûner. Son jeûne ne sera pas valide et pas accepté, et elle doit malgré tout le rattraper. Alors ici, petite parenthèse, vous faire la différence entre menstrues et louchies, qui sont des périodes claires d'impureté, où la femme ne jeûne pas et ne prie pas, elle ne rattrape pas la prière, mais elle devra rattraper ses jours non jeûnés. Et il faut distinguer avec les louchies, avec les métrorragies, pardon, qui sont eux des écoulements de sang, mais qui n'ont rien à voir avec les règles et les louchies. Ce sont des écoulements de sang qui n'ont rien à voir avec ça. Et pour ces écoulements de sang-là, la femme ne doit pas se considérer en impureté. Elle doit continuer à prier et elle doit continuer à jeûner. Ceci étant dit, qu'est-ce que nous disent les textes à ce sujet? On a le texte d'Abu Sa'id al-Khudri où le professeur sallam dit « Alaysa idha hadat lam tusalli wa lam tasum, fadhalika نقصان دينها. Donc, dans ce hadith, le professeur Sam dit de manière claire, et c'est un hadith qui est rapporté ou authentifié par le Bukhari, que la femme n'a pas à prier ni à jeûner quand elle est en état de règles. Aïcha radiallahu anha, elle dit, nous avions l'habitude d'avoir nos règles à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et on nous demandait de rattraper notre jeûne, mais pas de rattraper nos prières, et c'est un hadith authentifié par Muslim. Ici, deux questions. La première, c'est si la femme, avant le fajr, elle se rend compte qu'elle est sortie de son état d'impureté, évidemment, la journée qui va suivre, elle doit la jeûner. Elle doit jeûner, puisque de nuit, juste avant que le soleil ne se lève, elle se rend compte qu'elle n'est plus en état d'impureté. Donc elle jeûne cette journée-là. La question qui se pose, c'est si elle ne s'est pas lavée, elle n'a pas fait le ghusl, alors que le fajr est déjà arrivé. La grande majorité des savants, presque tous, disent qu'elle doit, même si elle n'a pas fait le ghusl, jeûner. C'est comme la personne qui aurait fait un rêve érotique, qui est en état d'impureté, il n'a pas encore eu le temps de se laver, et pourtant, il jeûne quand même. Et donc la femme, elle est dans ce cas-là, elle jeûne, même si elle n'a pas eu le temps encore de se laver, et son jeûne est considéré comme valide, elle n'a pas à le rattraper. Deuxième question, c'est si la femme sort de son état d'impureté, sort de ses menstrues ou de ses louchies pendant la journée, au milieu de la journée, avant le coucher du soleil. Qu'en est-il pour cette femme? On a deux opinions. L'opinion de la majorité, ce sont les Malikites, les Shafi'ites. Une opinion rapportée chez Ahmed, attribué à Ahmed, et c'est aussi l'opinion d'Ibn Hazm, le littéraliste, qui dit que cette femme, à partir du moment où elle va rentrer en état de purification, sa période de loucher et de menstrues se termine au plein milieu de la journée, étant donné qu'elle a mangé, qu'elle a bu, elle a pas jeûné ce jour-là, pour eux, il n'y a pas de raison à ce qu'elle soit obligée de terminer son jeûne comme juste une partie et de le rattraper en plus après. Ces savants nous disent qu'elle n'a aucune obligation de jeûner le restant de cette journée, puisque de toute façon ce jour est annulé, puisqu'elle avait ses menstrues et ses louchies le matin. Donc, dans tous les cas, elle va le rattraper le jour. Donc, il n'y a pas d'obligation chez elle à arrêter de manger et de boire parce que maintenant elle est en état de pureté. Certains savants, comme les Hanafites, et c'est une opinion attribuée aux Hanbalites, nous disent qu'elle doit quand même arrêter de jeûner, arrêter de boire et de manger, même si c'est qu'une partie de la journée, et même si elle va rattraper son jour, puisque ce jour n'est pas compté, par respect, ils disent, par respect pour la journée de Ramadan, parce qu'elle est en journée de Ramadan, et donc par respect pour ce temps de Ramadan, ce temps de jeûne, elle doit arrêter de manger et de boire, selon l'avis de la minorité, mais l'avis de la majorité ici est plus convaincant, rien ne prouve qu'elle a cette obligation. Si elle le fait par choix, par respect, elle peut le faire, mais dire que c'est obligé, non, il n'y a rien qui le prouve. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum pour votre attention. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilayk.